Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés.
Le chien, nous dit-on, serait le meilleur ami de l'homme. Il est en tous les cas son fidèle compagnon des jours heureux et des jours un peu moins heureux. Je vais aujourd'hui vous parler de deux romans particulièrement attentifs à la condition canine et de ce fait à la condition humaine. Le premier d'entre eux s'intitule « Chien perdu et autres chiens trouvés ». Il est signé par Alain Weinstein et vient de paraître aux éditions Flammarion. L'histoire est celle d'un homme, prénommé Samuel, qui vient de perdre sa chienne, une bien nommée Litote. Entre Samuel et Litote, c'est malheureusement de l'histoire ancienne, et cela en dépit d'une réelle osmose. Samuel est écrivain. Il cherche désespérément cette Litote qui lui a joué ce mauvais tour, disparaître du jour au lendemain, ce qui n'est pas sans rappeler le titre de la célèbre émission qu'Alain Weinstein anima sur France Culture. Tel maître, tel chien, Samuel est lui aussi un cas à part. Il écrit des livres que personne ne lit, ou du moins le croit-il. Ou plus précisément, nous dit Alain Weinstein, il écrit comme s'il était le premier, le seul, perdu sur une terre des plus resserrées, où il aurait fouillé le silence. Une terre, nous dit-il encore, devenue un territoire imaginaire où des événements minuscules, presque imperceptibles, prenaient une importance démesurée, aux conséquences insoupçonnées. La terre était son atelier d'écriture. Vous l'aurez compris, Samuel est un écrivain particulier. Il n'écrit pas des livres à succès, des livres attendus. Il s'est plutôt spécialisé dans les livres qui ne vont pas dans le bon sens, dans les textes buissonniers, qui nécessitent que le lecteur fasse un pas vers eux. Un peu comme cette chienne Litote, qui semble avoir choisi Samuel plus qu'il ne l'a choisi. Voici comment Alain Weinstein présente page 17 leur première rencontre. Leur rencontre s'était déroulée en plusieurs temps. Un jour qu'il était attablé au café du commerce, il aperçut un chien qui semblait l'observer. Une chienne, plus exactement. Il n'y prêta pas trop attention, mais elle s'avança tout près de lui. Pas de doute, c'était après lui qu'elle en avait. Elle semblait se retenir de bondir, comme si elle retrouvait une connaissance après une longue absence. À partir de ce jour, il n'arrêta pas de croiser la chienne sur sa route. Elle débouchait face à lui et le suivait tout au long de sa promenade. Il remarquait qu'elle s'arrêtait souvent pour flairer les fleurs sur son passage. Elle était même apparue un soir, après minuit, à la lisière du bois de pin, où il avait l'habitude de flâner avant d'aller se coucher. Que lui voulait cette chienne? Pourquoi avait-elle jeté son grappin sur lui? Il était assez intrigué pour l'observer d'un regard différent. Tous deux donnaient l'impression d'avoir un véritable rendez-vous. Malheureusement, tout rendez-vous est un rendez-vous avec la vie et avec sa propre finalité. Je ne vous en dirai pas davantage sur ce récit qui tient un peu du conte philosophique. En homme de radio accompli, Alain Weinstein sait comme nul autre poser sa voix sur un silence qui en dit long et faire résonner dans son écriture les voix qui ne sont plus. Ce taiseux de Samuel est en effet un solitaire, un réfractaire à la norme, un insulaire à sa manière qui s'est retranché dans une maison de village située dans le sud de la France. Le seul être qui est peut-être parvenu à l'apprivoiser est cette chienne au nom improbable de Litote. Un animal dit de compagnie, d'une discrétion à toute épreuve, et qui, un beau soir, nous dit l'auteur, a franchi la frontière entre présence et absence et a progressé à grands pas vers l'invisible. En consultant en effet les photographies de chiens qu'il a réalisées avec son téléphone portable, Samuel s'aperçoit alors qu'il a tout simplement oublié d'immortaliser Litote afin peut-être de lui donner toute sa dimension onirique et de nous restituer par-delà les arrêts sur image l'emprise poétique de cette présence amie. Il ressort un récit extrêmement émouvant, au plus près du vivant et de la conscience de soi. C'est aussi sur une histoire de chien définitivement perdu que débute le 8e roman de Jean-Pierre Pochioni, La double personnalité du criquet, qui vient de paraître aux éditions Héliopole et qui inaugure la toute nouvelle collection Serge Safran chez ce même éditeur. Ce roman, qu'on pourrait qualifier de polar, nous plonge dans la vie de Bruno Mancini, psychologue dans une multinationale. Pour des raisons professionnelles, Bruno déménage avec sa femme Valérie et leur fils Valentin dans un ancien moulin en lisière de la forêt de Fontainebleau. Tout va pour le mieux, jusqu'au jour où ils retrouvent Sam, le chien adopté par leur fils, dans un piteux état. Le chien a en effet été tué, plus exactement étranglé, suite à une querelle de voisinage. S'ensuit une enquête, puis un voyage en Italie, dans les terres de Monte Alba. Un retour aux sources pas si paisible que ça, puisque dès lors, Bruno Mancini est pris au piège d'un engrenage digne d'un roman d'espionnage. Mais le point fort de ce roman réside surtout dans ses ambiances très chabroliennes, dans ses arrière-plans, dans ses fondus enchaînés, dans cet art du suspense qui maintient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. L'amplitude d'écriture de Jean-Pierre Pochioni s'adapte à merveille au syndrome du criquet, une métaphore que le narrateur découvre en lisant le journal dans la salle d'attente du médecin. L'attente se prolongeant, nous dit-il, comme il est d'usage chez les gens qui nous soignent, je me suis mise à réfléchir à cette image du criquet. Une métaphore qui m'a paru bien mieux adaptée à la situation que je subissais que celle de l'homme qui serait un loup pour l'homme. Des personnes vivent ici ou là, l'une promène son chien sans autre but que promener son chien. Sa mère tente de rendre une ruine vivable en accrochant au mur des portraits de stars richissimes et son compagnon, plus âgé à défaut d'être mûr, aimerait conserver son emploi de magasinier dans une usine de décolletage, malgré tout ce qu'il fait pour en être éjecté. Chacun est enfermé dans son effort, chacun surveille le niveau de sa progression vers un mieux-être imaginé à base de possession d'objets, smartphones, jeans avec griffes, voitures époustouflantes et Santiago en croco. Un matin, surgit le syndrome du criquet. Les trois trajectoires se confondent, les rêves fusionnent, ils se découvrent formant un groupe. Certes, pas un essaim, un envol, une multitude, mais le contraire de trois solitudes, un clan. Si l'on suit bien la théorie de Jean-Pierre Pochioni, c'est bel et bien le syndrome du criquet qui aurait atteint les voisins de la famille Mancini. On dit en effet que plus les criquets sont nombreux, plus ils sont capables de commettre l'impensable. Un effet de meute, si l'on veut, de vendetta ou de guérilla collective, qui vire bien évidemment au cauchemar. Car ceux qui ont une vie de chien s'en prennent malheureusement parfois à plus faible qu'eux. À moins que tout ceci ne soit que pure hypothèse. En habile marionnettiste, Jean-Pierre Pochioni se joue en effet des affabulations de ses personnages qui lèvent peu à peu le masque sur leur visage de demain. Pour l'heure, je vous encourage vivement à lire ce passionnant jeu de pistes qui mériterait une adaptation cinématographique et qui ne lésine pas sur les pas de côté, comme pour mieux prolonger le bonheur de lire.
C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.